Ma mère devient folle. Ma mère, Danielle, est en train de basculer dans la folie et je ne sais pas pourquoi. Dans ses ténèbres, elle emporte toute la maison. Moi, mon père Gilles et mes deux sœurs, Claire et Hélène. Je n'ai que 16 ans et je ne veux pas sombrer. Il faut que je parte, que je m'enfuis loin d'ici, vite. Chaque jour, quand je rentre du lycée, je la trouve allongée sur le canapé du salon. Lumières éteintes, volets tirés. Elle dort ou elle pleure. Elle a les cheveux sales et d'immenses cernes sous les yeux, mais de moins en moins de larmes. Elle ne mange pas, elle a beaucoup maigri, elle ne se lave plus beaucoup. Elle se néglige, elle coule. Maman, je suis devenu fou à mon tour. Ça ressemble à un hôpital ici. Je suis interné peut-être. Du tangage, de la houle, du roulis. J'ai mal au cœur. Je vais vomir. Je ne sais plus où je suis. En psychiatrie sans doute, je ne sais pas. Je vais crier. Rafale d'armes automatiques qui déchirent mes tympans. Obus qui éclatent dans ma tête. Neuroleptiques dans mes veines. Sédatifs dans mon cerveau. Un rêve, un délire ou un cauchemar. Je ne comprends rien à ce qui m'arrive.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Les secrets douloureux, les traumatismes, les deuils, les pertes insurmontables, les pauvres parents croient toujours bien faire en les cachant à leurs enfants. Mais ne pas mettre le chagrin en mots ne suffit pas à le faire disparaître. Et un jour, c'est dans la tête ou dans le corps de leurs descendants qu'il va réapparaître. Et il leur faudra bien du temps et des larmes pour nommer enfin ce qui les étouffe. Ceux qui sont revenus apparemment vivants de cette guerre sans nom que fut la sale guerre d'Algérie n'ont pas parlé de ce qu'ils y ont vu ni de ce qu'ils y ont fait. Mais l'ombre qui habitait leur âme a assombri les jours de tous ceux qui les ont aimés. Grand reporter au Monde, puis à l'Obs, Jean-Baptiste Naudet a traversé les pires zones de guerre des dernières décennies. Ex-Yougoslavie, Tchétchénie, Afghanistan, Rwanda. Et comme beaucoup de ses confrères, il dit avoir aimé cela. Avant de manquer, y perdre l'esprit et la vie. Durant ces périodes les plus noires, le souvenir de la grave dépression dans laquelle il avait vu sombrer sa mère le poursuivait. Alors un jour, il a cherché à comprendre et il a enquêté. Sur lui-même et sur cette mère qui, a-t-il alors appris, avait perdu un fiancé en Algérie et cru l'oublier en épousant son meilleur ami. La blessure, publiée chez l'Iconoclaste, est le récit magistral de cette quête de vérité et de pardon. Bonsoir Jean-Baptiste Naudet.
Bonsoir.
En 2005, vous étiez revenu de beaucoup de choses, des champs de bataille, de la planète, de séjours en hôpital psychiatrique. C'était 2005, c'était l'été, et vous avez décidé d'ouvrir un cahier d'enquête sur vous-même. C'est ce que vous écrivez. En fait, c'était plutôt, au départ, aussi un cahier d'enquête sur votre mère, parce que vous n'aviez pas su grand-chose et rien compris.
Quand j'étais à l'hôpital psychiatrique, je faisais ce qu'on appelle un stress post-traumatique. Évidemment, j'étais soigné avec des traitements médicamenteux, des antidépresseurs, mais aussi évidemment de la psychothérapie. Quoi. Et donc, on m'a fait raconter ma vie. Et les psychiatres, sans me le dire directement, en me le faisant comprendre, parce qu'en fait, tout le truc de ce genre de thérapie, c'est pas qu'on vous dise voilà, vous avez ça, mais que vous-même vous réalisiez. J'ai compris que, en fait, ce stress post-traumatique, il n'était pas seulement dû aux horreurs que j'ai vues. J'en ai vu des horreurs. Je les ai décrits dans le livre. J'ai toujours des scènes dans ma tête de gens que je vois brûler vivants. C'était horrible. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait une peur, enfin, un sentiment que je devais aller à la guerre et que j'allais fatalement y mourir. C'était mon devoir, c'était mon destin, auquel je ne pouvais pas échapper. Et j'ai compris qu'en fait, inconsciemment, je m'étais identifié à... C'est un peu quelque chose de psychanalytique, assez bête, qui paraît bête quand on le dit comme ça, mais je m'étais identifié un peu au fiancé de ma mère qui a été tué
la guerre d'Algérie le 9 juin 1960 en Kabylie. Robert, il s'appelait. C'était un chasseur alpin. Donc, voilà, j'ai fait le plus difficile reportage de ma vie sur moi-même et sur ma famille.
Mais vous dites, Jean-Baptiste Naudet, vous vous êtes identifié à ce fiancé disparu en 1960, mais vous n'en saviez rien. Votre mère avait vaguement évoqué le sujet. Il y avait eu quelques allusions, mais en fait, vous ne saviez ni la qualité du lien qui les unissait, ni l'existence de ces lettres où il décrit une guerre cruelle. Vous ne saviez pas grand-chose, en fait.
C'est vrai, mais disons ce qui s'est passé, c'est qu'à mon adolescence, ma mère a fait une grave dépression qui était liée au fait qu'elle n'avait pas fait le deuil de ce fiancé. Je pense qu'elle s'était mariée trop vite, elle avait 40 ans, ses enfants partaient. Enfin, il y a tout un tas d'autres raisons, mais la principale raison de cette vraiment grave dépression qui a plongé toute la maison dans la folie, c'était ce deuil pas fait. Et il y avait ce fantôme qui planait dans la maison. Il y avait un cadavre dans le placard. Et je ne le savais pas, mais vous savez, c'est quelque chose qui vous imprègne. Parce que ma mère faisait des allusions qui terrorisaient un peu mon père. Et il y a eu un premier incident que je raconte dans le livre. Mon meilleur ami s'est suicidé quand j'avais 25 ans et sa copine a fait un espèce de transfert sur moi au milieu du cimetière. Et moi, je ne l'aimais pas, mais je n'ai pas pu la repousser. Je me suis dit, bon, ben, il faut que tu l'épouses. Enfin, il faut que ça
c'est
soit
votre devoir.
Voilà, parce que ton père devoir. A fait. Ton père l'a fait. Et ce moment m'a rendu fou d'autant plus que, bon, j'étais dans un journal où aussi c'était mélangé d'autres histoires, justement, de. Et j'ai vraiment failli me. C'était ni avec elle ni sans elle. Vous savez, ce qui rend fou, ce qui conduit les gens au suicide, c'est quand vous avez deux injonctions contradictoires. Et ce devoir, eh ben, ça venait d'un espèce de modèle et d'histoire familiale. Et je m'en suis sorti de justesse en allant aux urgences. Et bon, après, j'ai continué. Mais ça a été une première alerte qui Et bon, d'ailleurs, quand j'ai raconté tout ça au psychiatre, la première séance, il m'a fait vous savez, il y a une histoire de guerre derrière. Je suis sorti en disant, qu'est-ce que c'est que ce crétin, quoi. Je comprenais pas. Et par ailleurs, il y a une deuxième dimension, c'est que, bon, que c'était tellement l'enfer chez moi, et puis j'étais en crise d'adolescence, donc ma mère était complètement opposé à la guerre, donc moi je trouvais là, forcément, je disais mais non, la guerre, je peux y aller, c'est pas si dangereux, c'est nécessaire. Donc il y a eu ce truc que moi je suis parti un peu complètement en live dans cette histoire, sans vraiment maîtriser. Bien sûr, il y a d'autres justifications qu'on a tous, les journalistes, et qui sont aussi vraies, c'est-à-dire c'est la passion de l'information, de témoigner, ça c'est vrai, mais il y avait aussi ces motivations personnelles qui n'était pas vraiment, vraiment consciente.
D'ailleurs, Jean-Baptiste Naudet, vous racontez beaucoup d'anecdotes très significatives, comme la fois où vous allez dans le cimetière sur la tombe de votre mère et vous vous rendez compte, à cette époque-là, vous êtes reporter de guerre, donc vous êtes dans votre trip, aller partout, défier la mort, pousser les limites jusqu'à l'extrême point, et vous découvrez que votre père a prévu votre tombe à côté de celle de votre mère, tellement cette pulsion de mort qui vous habitait était évidente pour tout le monde, bien plus encore que pour vous.
Oui, je pense que lui-même s'était un peu mis dans l'idée là même que mon destin était celui-là et qu'il devait le. J'y suis allé ce week-end.
Alors, ce livre, La blessure, qui vient de paraître à l'Iconoclaste, Jean-Baptiste Naudet, c'est un livre magnifique. C'est un livre à trois voix. Il y a la vôtre. Vous parlez de votre enfance dans cette famille en deuil, dans cette famille bourrelée de remords, de culpabilité. Il y a la voix de Daniel, votre mère, la voix de Robert, son fiancé disparu en Algérie, parce que ces lettres, votre père vous les a confiées quand vous avez commencé votre enquête sur vous-même et sur ce deuil impossible. On va écouter une première lecture, un extrait de votre livre. Vous vous mettez dans les pas, dans les rangers, j'allais dire, de ce Robert Sipierre qui est mort en 1960 en Grande-Kabylie. Vous racontez, dans vos propres mots, ce qui s'est passé lorsqu'il est allé là-bas.
À l'approche d'un village aux tuiles rouges, aux murs blancs, les chasseurs sont démasqués. Les chiens se mettent à aboyer, les ânes à braire, les coqs à chanter. Les habitants s'enferment dans les maisons, derrière les portes en bois. Les soldats bouclent le douar. Une section le contourne par le haut, une autre par le bas. Une troisième avance précautionneusement à travers le village. Tout à coup, une décharge de fusil de chasse claque. Un gars gueule « Je suis touché !» Déjà, le fel a disparu dans l'oued. Alors, c'est la fouille en règle des maisons. Des soldats s'énervent, car pour justifier l'absence des hommes, les femmes aux vêtements bariolés leur servent toujours les mêmes salades défraîchies. Leurs maris sont partis travailler en France, ou en ville, ou ils sont à l'hôpital. Et si elles reconnaissent finalement qu'ils sont dans la région, c'est pour affirmer qu'ils courent on ne sait où, dans la montagne, après les bêtes. Des soldats fouillent les femmes. Ils soulèvent leurs jupes. Elles n'ont pas de sous-vêtements. Sous prétexte de savoir si les hommes sont récemment venus au village, les soldats les examinent avec les mains. Ils crassent avec délice leur pubis qu'elles doivent raser, selon la coutume, avant un rapport avec leur mari. Après le coup de chevrotine, des hommes ont perdu les pédales. Toujours les mêmes. Ceux que cette guerre des nerfs a rendus fous, ceux qui ne disent même pas les fêles, mais les crouilles, les melons, les bougnoules. Ceux qui sont aveuglés par la peur et par la haine. Robert sait qu'il est impossible de les arrêter. Ils lui tireraient dessus. Ils l'ont déjà fait. La hiérarchie met alors les dégâts sur le dos des fêles. Ces cinglés sont couverts. D'autres trouvent quelque chose d'encore plus jouissif. Ils s'enferment dans ces maisons où il n'y a que des femmes, des enfants ou des vieillards. Ils attrapent les jeunes filles par les cheveux, arrachent les chemises pour faire jaillir les seins, déchirent les jupes, les culbutent sur la table. On entend des cris, personne ne bouge. Pour les finitions, ils foutent le feu aux maisons.
Jean-Baptiste Nodel, lorsque votre père vous a remis les lettres de sa femme, Danielle, et de son fiancé disparu en Algérie, Robert Sipierre, qu'est-ce que vous avez pensé tout de suite? Parce que ce sont des documents à la fois d'une grande qualité littéraire, parce que c'est très rare, ils avaient 20 ans. Ce sont des lettres très belles, très bien formulées, avec une pensée derrière. Tous les deux étaient des jeunes gens catholiques, contre la guerre. Et pourtant, Robert Sipierre, il avait beau être contre la guerre, dans les lettres, on sent bien qu'il l'a fait à fond. Et d'ailleurs, il était un bon chef de groupe. Il était sergent, aimé de ses hommes et apprécié de la hiérarchie. Ce sont des contradictions terribles.
Oui, c'était une contradiction totale parce que ma mère était plutôt une militante, elle était une militante de gauche.
PSU.
PSU.
Féministe,
MLF, MLAC, planning familial. Elle a manifesté, elle a été même occupée des aéroports quand il y a eu la menace de putsch, etc. Elle était totalement antiraciste et anticolonialiste, et elle avait son fiancé qui se battait. Donc la situation est complètement absurde, mais je crois qu'elle est intéressante en ce sens que elle traduit très bien ce qui s'est passé, non pas seulement dans leur couple ou dans ma famille, mais à l'échelle de la France tout entière. C'est-à-dire qu'à part une minorité de gens qui avaient des grands domaines, des grands journaux en Algérie, qui ont poussé les petits colons qui les ont embrigadés, les Français étaient contre cette guerre. Mais bon, quand c'est la guerre, malheureusement, vous n'avez pas trop le choix. Et après, Robert se retrouve entraîné, prisonnier d'un phénomène que j'ai essayé de décrire dans le livre, parce que c'est quelque chose qui est très difficile pour quelqu'un qui ne l'a pas vécu. C'est que la guerre fascine, la guerre vous entraîne, la guerre est une drogue. Et quand il dit, quand il tue son premier félaga, qu'est-ce qu'il dit? J'ai peur d'y prendre goût. Voilà.
Mais on entend presque l'écho de vos propres réflexions à vous, grand reporter, alors, où vous dites, j'y ai pris goût. Alors, vous ne faisiez pas la guerre, vous faisiez pas la guerre, mais vous la côtoyez. Il y a une fascination exercée par la guerre sur les hommes, alors, plus que sur les femmes, sans doute.
Oui, tout à fait. Alors, vous avez tout à fait raison, je peux faire un petit chapitre là-dessus.
Ce qui s'est passé, c'est quand mon père m'a remis ses lettres. En fait, il me les a données en 2004, j'ai écrit le livre il y a 2 ans. Donc, j'ai mis plus de 10 ans à les lire parce qu'à chaque fois que j'ouvrais, je commençais à pleurer, maman, etc. C'était trop d'émotions. Il m'a fallu. Bon, effectivement, j'ai vu leur qualité non seulement littéraire, mais aussi comment Robert analyse et comment il décrit qu'il est en train de devenir un salaud malgré lui-même. Il décrit cette fascination. Effectivement, quand j'ai lu ça, bon, bah. Tout ça, ça fait écho à ce que j'ai. C'est aussi pour ça que j'ai fait ce livre, en expliquant ce qu'on peut ressentir. Je parlais il n'y a pas longtemps à des gens de Sarajevo. Les gens de Sarajevo, ils regrettent la guerre. Parce qu'il y avait une atmosphère dans Sarajevo.
Ils regrettent les rapports humains qui se sont tissés à ce moment-là.
Ils regrettent. Voilà, mais en ce sens-là, ils regrettent quand même la guerre. Parce que bon. Il n'y avait plus de loi, il n'y avait plus de feu rouge. Les gens faisaient du théâtre pour résister. Parce que face à la barbarie, Donc il y avait une atmosphère de liberté, de création, de résistance et de fraternité entre les gens que malheureusement, seul ce genre de situation extrême peut créer, quoi. Et il y a quelque chose de... Je me cite, mais je veux dire, la guerre, c'est la vérité de l'homme dans toute son horreur, mais aussi dans toute sa beauté. C'est-à-dire que dans les guerres, vous avez les scènes de courage, d'héroïsme et de résistance les plus belles que vous verrez jamais dans la vie de tous les jours. Évidemment, les choses les plus atroces, les massacres, les viols, etc., ce sont les deux choses à la fois.
Quand je dis ce livre est à trois voix, parce que il y a, vous, votre propre expérience, il y a les lettres de Daniel et les lettres de Robert, mais il y a ces passages où vous vous mettez dans les pas de Robert, comme celui que l'on vient d'entendre. Mmh. C'est pas une lettre, c'est pas lui qui parle, non. C'est vous qui savez très exactement ce qui s'est passé et ce qu'il a ressenti.
Alors, ce que j'ai voulu faire, c'est quelque chose de pas très orthodoxe. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'éditeurs qui ont trouvé ça un peu bizarre parce que c'est un livre où il y a une partie biographique, il y a une partie de documents, donc les lettres, et il y a une partie qui est un récit littéraire un peu romancé. Mais en fait, il est très documenté. Et je l'ai fait parce que dans les lettres, il est clair que Robert peut pas tout dire. Il fait des allusions.
Bah, il y avait la censure.
Il y a une chambre pour la question, 3 petits points, tu vois ce que je veux dire. Il peut pas raconter d'abord. Parce qu'il y a la censure. Ensuite, on peut pas raconter à sa fiancée, ni à sa famille, etc. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait faire ce genre de choses. Et cette partie où moi-même je fais le récit, c'est imaginer, mais enfin, je veux dire, je l'ai fait quand même de façon très le plus sérieuse possible. Je ne pouvais pas publier toutes les lettres hein, parce qu'il doit y en avoir 40 à 50%. Après, j'ai interrogé les gens de ma famille qu'ils connaissaient. Et ensuite, j'ai fait quelque chose de très bête. J'ai acheté dans des librairies de province des mémoires de chasseurs alpins en Kabylie. Roger Fauroux, qui était chasseur alpin, qui a édité à Grenoble. J'ai une dizaine de livres comme ça, sur lesquels je me suis appuyé à la fois pour reconstituer la végétation, les armes, les machins, mais aussi l'état d'esprit. Il faut dire, sur la dizaine de livres que j'ai achetés, il y a 9... qui pense comme un Robert, et il y a un fasciste qui dit on va casser du bougnoul. Mais l'état d'esprit je veux dire, Robert n'est pas Robert. Robert est le contingent, ma famille n'est pas la famille. La famille,
mais oui, c'est un livre sur la guerre d'Algérie, sur ce qui s'y est passé.
Pris dans ouais. Cette guerre.
Alors, Robert était para, chasseur alpin, il crapahutait dans le djebel de la Haute-Kabylie. Alors, lui ne participait pas, je pense que sa section ne torturait pas, mais il savait très bien qui le faisait et à quel endroit.
Voilà, alors, bon, il y avait des unités et des officiers spécialisés, ça s'appelait les DOP. Après, je veux dire, dans la torture, il y a une part, disons, qui était organisée avec des villas, les services, etc. Puis il y avait une part de dérive où les gens se vengeaient parce qu'ils avaient eu un copain massacré, donc ils prenaient quelque chose de pas très organisé. Mais bon, ce qu'il faut quand même dire, c'est que la torture, ça a été quand même quelque chose de... Et les viols, là on est en train d'en parler, c'est en train de sortir. Les viols, c'était pas quelque chose d'organisé, mais c'était quand même quelque chose qui était à grande échelle. Et quand Macron, on peut critiquer pour diverses autres raisons, mais puisqu'il a 40 ans, a dit qu'il y a eu des crimes de guerre, c'est même des crimes contre l'humanité. On a rasé des villages entiers au
lance-flammes.
Au Napalm, qui était expérimenté pendant les Américains au Vietnam n'ont rien inventé. On l'avait fait en Indochine avant et on l'a fait, etc. Donc, je pense que là, il y a... Et quand on dit que Houdin a été torturé, mais il y a... Houdin est un Français qui était avec le FLN, mais des gens du FLN, il y a des milliers d'Houdins, des dizaines de milliers d'Houdins qui sont algériens. Ce livre, je voudrais qu'il soit aussi... Et peut-être même avant tout, pour qu'on en finisse, qu'on reconnaisse. Et c'est pas être dans la repentance, dans l'autoflagellation, parce que la majorité des gens, ils l'ont fait parce qu'ils ont été obligés de le faire.
I knew that it was wrong. I didn't have a doubt. I was dying to get back home. And you were starting out. I said I best be moving on. You said we have all day. You smiled at me like I was young. It took my breath away. Your crazy fragrance all around. Your secrets all in view. My loss was saying found. My don't was saying do. Let's keep it on the level. When I walked away from you, I turned my back on the devil. Turned my back on the angel too.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Jean-Baptiste Naudet, vous publiez dans votre livre La Blessure une partie des lettres échangées entre votre mère Danielle et son fiancé Robert Sipierre. Ce Robert Sipierre, il est parti en février 60 pour l'Algérie. Il a été tué en juin. Ça ne laisse pas beaucoup de temps, mais il a beaucoup écrit. Et ce qui est surprenant dans les lettres que vous publiez, c'est que certes, il évoque vaguement la torture. Ça n'aurait pas passé la censure, vraisemblablement. Mais en tout cas, la censure a laissé passer les descriptions d'exactions des militaires qu'il commandait. Il raconte la façon, on l'a entendu dans la première lecture, dont les hommes se comportent dans les villages, parfois mettent le feu, violent les femmes. Ça, c'est très surprenant que la censure militaire ait laissé passer. Et ces lettres en sont pleines de ces histoires.
Alors, je me suis renseigné sur la façon dont la censure était exercée pendant cette guerre. Et je ne suis pas historien, donc je ne peux pas garantir à 100% ce que j'ai dit, mais selon ce que j'ai trouvé, en fait, il n'y avait pas du tout de censure systématique, parce qu'elle était impossible, vu la taille du contingent et le nombre de lettres. Ils procédaient par sondage. Donc je pense qu'il y a pas mal de lettres comme ça qui sont passées un peu au travers du filet. Et par ailleurs, on ne sait pas si toutes les lettres sont arrivées. Il est possible que certaines lettres où il décrivait les choses les pires ont été censurées.
Alors, ce Robert Sipierre, on peut pas dire qu'il soit parti à son corps défendant, il n'avait pas envie d'y aller. Il est habité dès le départ par le sentiment qu'il n'en reviendra pas. Et en même temps, dans certaines lettres, c'est très frappant, il raconte en fait une sorte de plaisir, de bonheur. Il appelle ça « faire son cow-boy ». On va écouter une autre page de votre livre.
Tassalt, le 30 mars. Daniel chéri, je suis étonné de n'être pas honteux que ça me plaise, la vie militaire. En repos, au PC, ça me manque. Ça, c'est le crapahut, la chasse à l'homme, la bagarre. Bien sûr, j'attends la quille avec impatience comme nous tous ici. Mais comme tous également, tous les normaux, la vie de guérilleros, presque de bande de brigands ou de justiciers ou de cow-boys, cette vie nous plaît. Peut-être simplement le manque de maturité de tous. On a tous 20 ans. Je pense que c'est faux sans doute comme sentiment et j'espère que dans quelques mois j'aurai des vues plus saines. Ce qui n'empêche pas que je regrette les exactions, la guerre tout entière. Mais on se laisse séduire par le côté cow-boy, je me répète, et indien de l'aventure. nous sommes bien de pauvres hommes. N'importe quelle génération à notre place réagirait de la même manière, je crois. Encore ai-je la chance de pouvoir m'en rendre compte et de m'apercevoir que je me prends au sérieux. C'est le côté individuel humain du problème que je veux te faire toucher, et non plus celui dramatique du péché collectif qu'est la guerre. Deux aspects différents d'une même chose. Les soins aux femmes du village, le réconfort aux blessés, la nuit inquiétante, l'angoisse des attentes, les arrivées, les retours glorieux, sens militaire exclusivement, la vie en grande camaraderie, décontractée, un peu moins artificielle. Tiens, sens un peu cette odeur de vie. Ce que je veux dire par là, c'est que cela risquerait de te plaire comme à beaucoup d'autres de notre espèce. Ainsi, le ciel est uniformément bleu, la neige fond très vite sur les sommets, les arbres sont tous verts, frais, les oiseaux chantent et j'ai envie d'être heureux. Surtout pas d'air sombre, je suis fou, je t'embrasse. Es-tu folle ? Aussi ? Alors ça marche, c'est ok. Cette nuit, les nuages sont partis, laissant voir un peu d'étoiles. Un baiser de cow-boy, ton Robert.
Jean-Baptiste Naudet, on a du mal à imaginer que c'est un gamin de 20 ans qui écrit ça. Il analyse parfaitement bien cette contradiction dans laquelle il vit, la détestation de la guerre par principe, le fait d'être dans un pays qui n'est pas le sien, à combattre des gens qui, eux, sont chez eux. Il le sait, ça. Et en même temps, il n'hésite pas à avouer à sa fiancée, à votre mère, Danielle, à quel point ça le rend heureux de faire la guerre. Le crapahut, comme il dit, faire le cow-boy. C'est très étrange, c'est une lettre très fascinante.
Oui, c'est cette espèce de fascination, répulsion qu'on éprouve tous ceux qui ont approché la guerre. Il parle notamment de cette camaraderie que, par exemple, moi, en tant que ce qu'on appelle entre guillemets reporter de guerre, j'ai croisé quelqu'un dans le couloir ici.
Jean Hatzfeld disait la même chose avant d'être blessé.
Voilà. Mais Jean Hatzfeld, c'est un frère, voilà. Mmh. Ils sont des gens, quand les gens font la guerre, ils se battent pas pour la patrie, le pays, la démocratie ou je sais pas quelle grande cause, idéologie bonne ou mauvaise. Ils se battent pour le copain d'à côté. Pour sauver la guerre du copain d'à côté. C'est pour ça que on parle des réunions d'anciens combattants. C'est quelque chose d'absolument insupportable quand vous n'avez pas été dedans, parce que c'est un vécu d'une intensité, d'une force qu'on ne peut pas comprendre si on l'a pas vécu. Moi, je sais que c'est quand j'ai lu ces lettres, notamment cet aspect-là. Parce que moi, je l'ai ressenti aussi, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut essayer de faire comprendre. Et bon, le livre, la littérature, c'est fait avant tout, peut-être, c'est fait pour ça, c'est pour essayer de transmettre des expériences que les gens ne connaissent pas, n'ont pas vécues, pour faire comprendre aussi quelque chose.
D'ailleurs, effectivement, beaucoup de ceux qu'on appelle des reporters de guerre, et on en connaît, vous et moi, racontent souvent les mêmes choses. Le moment où, tout d'un coup, la pulsion de mort, la folie, le trop d'adrénaline, le trop de tension, le trop d'horreur vue et approchée, finissent par rendre cinglés. Et ce moment où, justement, certains journalistes disent... Il a fallu s'arrêter parce que sinon, où j'y restais, où je devenais un tueur comme les autres. On va écouter ce passage de votre livre où vous ne vous épargnez pas, Jean-Baptiste Naudet, quand vous racontez à quel point il y a eu des moments où vous avez totalement disjoncté.
Ce que vous êtes ne compte pas. Ce qui compte ici, ce sont des valeurs qu'il n'est pas besoin d'énoncer. On sait très bien pourquoi l'on meurt. Alors, dans ce cauchemar, il règne une incroyable atmosphère de fraternité. Mostar, mon amour, j'ai aimé ta guerre, ton humanité face à la barbarie. Tu me manques, toi mon enfer au goût de paradis perdu. La guerre, ce n'est pas seulement la drogue du combat, cette addiction aux sensations fortes, cette soif d'action qui l'emporte sur la peur, ce concours idiot de machisme. C'est surtout une irremplaçable intensité des rapports humains portés à leur incandescence. Dans la vie ordinaire, vous pouvez passer votre existence entière avec quelqu'un sans savoir ce qu'il vaut vraiment. Dans la guerre, quand vous rencontrez quelqu'un, vous le savez très vite. Vous comprenez immédiatement s'il peut vous tuer, se sauver en cas de danger, ou bien sacrifier sa vie pour vous. La guerre, c'est la vérité de l'homme mise à nu dans toute son horreur, toute sa bassesse, toute sa grandeur, toute sa beauté. Souvent défoncé à l'alcool, parfois à l'héroïne, un reporter de guerre, c'est souvent un homme amical avec du cran, une classe discrète, une certaine morgue face au danger. C'est un chevalier. Ces reporters, ils sont devenus mes amis à la vie, à la mort. Dès que j'ai rencontré Julio Fuentes, mon ami espagnol del Mundo, pendant la guerre de Bosnie, nous sommes devenus des frères. En 2001, Julio se fait dessouder par des talibans au bord d'une route afghane. J'achète une bombe lacrymogène. Je ne veux pas mourir la tête dans la poussière d'une balle de calage dans la cervelle après m'être fait sodomiser par les islamo-barbus. Je vais les arroser aux lacrymo, arracher une arme, les descendre. Aïcha, une amie chère, me voit un jour sortir par erreur cette bombe d'autodéfense de ma poche au journal. Elle me dit « Ça ne te ressemble pas, Jean-Baptiste. » Comme toujours, elle voit clair en moi. Et ça me retourne. Elle a raison. Cet accessoire de beauf n'est pas pour moi. Je suis en train de craquer.
Jean-Baptiste Naudet, il y a eu un jour où vous vous êtes dit « ça va, j'arrête ». Ou on l'a dit pour vous ?
J'ai dit provisoirement. disons que après, ouais, les psychiatres m'ont fortement déconseillé de continuer. Bon, après, mon chef au journal était un ami, donc j'étais assez surveillé, quoi. J'ai quand même fait une fois, j'étais en Somalie, parce que le psychiatre, c'était le mois de juillet, le psychiatre était en vacances, le chef était en vacances, donc je me suis éclipsé. Quand le chef est venu, il a relu le papier. J'étais très fier de mon papier, parce que c'était un reportage très difficile à faire. Je me suis dit, tiens, il va me dire, ça fait un bon papier. Il l'a lu, mais il m'a dit, ça, Jean-Baptiste, c'est un reportage à 3 semaines d'hôpital psychiatrique.
Oui, mais justement, vous disiez tout à l'heure, on vous a diagnostiqué clairement un syndrome de stress post-traumatique. En même temps, ce livre, il sonne quand même comme une analyse claire et donc comme une reconstruction.
Oui, bon, il y a un côté psychothérapie, catharsis dans le livre qui est évident que je nie pas. C'est pas le seul, parce que je pense que pour que ça soit réussi, il faut, pour employer des grands mots, une espèce de sublimation par là. C'est ce que j'ai vécu, c'est quelque chose de très moche, donc il faut que j'en fasse quelque chose de beau, une espèce d'œuvre d'art, mais une œuvre littéraire. C'est-à-dire que bon, la mort de Robert est atroce, mais faut qu'on, quand on la lit, ça soit beau. Sinon, on s'en libère pas et les gens n'ont pas envie de le lire. Ça, c'est la première chose. Et en plus, je voulais que ça soit non seulement une catharsis pour moi, qu'il y avait ce cadavre de la guerre d'Algérie dans ma famille qui empoisonnait l'atmosphère. Je voulais ouvrir le cadavre et le sortir, mais ce cadavre, il empoisonne toujours la société française. Et je voudrais aussi qu'on ouvre les portes et qu'on sorte ce cadavre pour en finir. Donc, c'est une catharsis que je veux personnel, mais aussi plus général.
Oui, d'ailleurs, ce sont les dernières lignes de votre livre, quand vous dites que vous l'avez écrit comme une offrande, comme une supplique, comme un chant à la mort, à l'amour, et pour que l'on nous pardonne. Et en même temps, vous disiez justement avoir envie de retrouver le Felaga que Robert a tué et qu'il a tué en même temps. Est-ce que vous avez retrouvé la famille? Est-ce que vous êtes parti à la recherche de ceux d'en face?
J'ai commencé, mais il se trouve que justement ce Mont Jura où était Robert, là où il a été tué, était le bastion, le cœur de la résistance pour des raisons géographiques, donc du FLN de l'ALN. Et aujourd'hui encore, c'est pratiquement le dernier lieu où il y a des islamistes algériens armés. Et même il y a quelques années, il y a un Français qui s'est fait de l'alpiniste là-bas qui a été tué. Oui. Donc je me suis dit, Jean-Baptiste, mon père voulait absolument venir avec moi. Je me suis dit, est-ce que c'est une bonne idée d'aller faire tuer ton père après le fiancé de ta mère? Donc j'ai un peu renoncé. Par ailleurs, il s'est passé un truc assez extraordinaire. Mon père, qui a une association, il fait des défrichements. Il est en train de faire des défrichements avec des stagiaires. Il a entendu un stagiaire dire, je vais en Algérie en vacances dans ma famille. Il lui a demandé, mais où en Algérie? Le gars lui a dit, en Kabylie. Mais il dit, où en Kabylie? En Haute-Kabylie. Mais tu es de quel village? Il dit, vous connaissez pas ce village? Il a dit, Tigishourt, c'est le village où était Robert. Donc, le jeune, c'est un Français, je pense, d'origine kabyle, est resté, mon père lui a raconté toute l'histoire. Il est parti en Haute-Kabylie avec le livre, dans son village, avec les lettres de Robert écrites en 1960. Et on attend de ces nouvelles. Mais il est en train de... Moi, je reçois plein de lettres de gens, d'Algériens. C'est en train de remuer. C'est d'ailleurs ce que je voulais qu'il se passe. J'aimerais que... En fait, le livre, c'est pour que les gens s'en emparent. Et que tout ça sorte et qu'on se parle et qu'on se dise, écoutez, voilà.
C'est à ça d'ailleurs que doivent servir les livres quand ils sont bons. Et Dieu sait si le vôtre l'est, Jean-Baptiste Naudet. Merci de l'avoir écrit, merci de nous l'avoir confié. Longue vie à ce livre, longue vie à vous, surtout faites pas l'andouille.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Je rappelle que c'est publié chez l'Iconoclaste, bien sûr. C'est fini pour l'humeur vagabonde de ce jour. Nous nous retrouverons dans une semaine, mais bien sûr, France Inter continue, puisqu'après les informations de 20h, vous avez rendez-vous avec Julia Foyce et son Babel sur scène. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter, bien entendu.